parage. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glèbe toute neuve. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe. Je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons. Oh les mangeteurs, y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et c'est l'heure de l'émission, comme tous les premiers lundis du mois, Les Mangeteurs, une émission d'écologie sociale, de tour d'horizon d'actualité, une actualité toujours riche puisque l'état de la planète ne s'arrange pas et les problèmes sociaux évidemment non plus. Donc je vous propose sans plus tarder d'ouvrir la page agriculture autour de différents communiqués de presse et articles, en commençant d'abord par un communiqué de presse de la Confédération paysanne, donc deux communiqués de presse. Et le premier datant du mercredi 6 décembre, à l'occasion notamment de la concertation sur la future loi d'orientation agricole et du nouveau pacte agricole donc, qui a été lancé il y a de cela un peu moins d'un mois. La Confédération paysanne rappelle qu'elle revendique des politiques publiques pour encadrer et protéger la production agricole et alimentaire et donner aux paysans une sécurité concernant leurs revenus. C'est la base de tout. Renouvellement, installation, transition et adaptation face à des aléas climatiques et économiques de plus en plus fréquents. En cela, l'intention d'écrire un nouveau pacte agricole et de proposer à discussion un cadre législatif rénové pour encadrer ces enjeux nous apparaît intéressant. Seulement, rien ne devra être oublié ou délaissé, sans quoi l'intention restera vaine. La Confédération paysanne insiste pour saisir cette occasion afin de renforcer les outils de régulation et de partage du foncier agricole, véritable clé de voûte de l'objectif de transmettre et d'installer, objectif qu'enfin tout le monde semble partager. Ces 10 dernières années, l'agriculture a perdu 80 000 actifs. En 10 ans, il ne faut pas l'oublier. L'augmentation du nombre d'actifs paysans doit guider nos travaux. La souveraineté alimentaire ainsi que les réponses à l'urgence écologique ne pourront être pérennes sans plus de paysans et paysannes. La Confédération paysanne fixe d'ailleurs l'objectif ambitieux d'un million de paysans, car ce sont bien les hommes et les femmes, par leurs activités et leur savoir-faire, qui créent les conditions à la production de davantage de valeur ajoutée, pilier d'un secteur dynamique et rémunérateur. Non, la robotique, la génétique et le numérique ne sont pas une solution. La Confédération paysanne revendique également que le dossier de la formation initiale et continue soit pris à bras le corps. L'enjeu n'est plus aux querelles de chapelle ni au maintien d'un précaré financier, mais bien d'additionner les compétences et savoir-faire des différents réseaux de formation et d'accompagnement. Il faudra donc revaloriser les moyens alloués à l'enseignement agricole et aux structures qui accompagnent les futurs installés, comme les paysans en recherche de transition, à la hauteur des objectifs et du chantier d'envergure auquel nous faisons face. Enfin, la question de la fiscalité, notamment liée à la transmission, ne saurait être mise sous le tapis. Aujourd'hui, elle n'accompagne que l'agrandissement et la fuite en avant d'un modèle industriel. La fiscalité, comme la loi, doit protéger le plus faible face au marché libéral et lui donner les possibilités de s'installer sans s'enfermer dans une logique de course au volume et aux hectares que l'on sait néfastes socialement, économiquement, écologiquement et climatiquement. Se contenter d'accompagner des tendances serait une orientation mortifère pour les paysans et paysannes et contraire aux enjeux alimentaires et agro-environnementaux d'aujourd'hui. La Confédération paysanne prendra donc pleinement sa part dans l'ensemble de ses réflexions, mais sans freiner l'ambition de réussite qu'elle a pour l'agriculture et l'alimentation et celles et ceux qui la produisent. Cette réussite ne saura se concrétiser sans balayer l'ensemble des sujets. Voilà une déclaration d'intention, effectivement, dans un contexte de segmentation, de sectorisation, qui fait perdre finalement des objectifs d'ensemble, et en particulier perdre ces questions d'aménagement du territoire et également de reconquête aussi des emplois agricoles autour de projets de qualité et plutôt riches en main d'œuvre humaine que bourrés de gadgets électroniques qui nous éloignent de plus en plus du vivant et qui en plus sont des solutions, on le sait, non pérennes dans le temps et très consommatrices en ressources rares. Voilà le petit commentaire que je rajoute. Et puis, pour poursuivre, donc, je vous propose aussi un autre communiqué de la Confédération paysanne autour, alors ça s'est passé le mois dernier, hein. En tout cas le communiqué était du 9 décembre, autour de l'élevage plein air à nouveau sacrifié, ce qui est dénoncé par la Confédération paysanne, qui nous dit que malgré les enjeux énormes, l'administration n'a pas donné aux scientifiques de l'ANSES les moyens de disposer des données suffisantes pour tirer les conclusions de l'instauration de la mise à l'abri. Ainsi, il n'existe toujours au fond aucun fondement scientifique ni à ces restrictions à l'activité de l'élevage plein air, ni même à la claustration. Pour nos syndicats, donc de la Confédération paysanne, le constat est clair. Après la mise en œuvre de cette mise à l'abri, la saison 2021-2022 a battu tous les records en matière de nombre de foyers en élevage, plus de 1500, et de nombre d'animaux abattus, plus de 20 millions. C'est donc bien l'industrialisation de l'élevage et des filières qui propage la grippe aviaire et l'a rendue endémique au sein de la faune sauvage de nos territoires. En ce début de mois de décembre, la situation critique du haut bocage vendéen confirme cette hypothèse. Mais le ministère de l'Agriculture s'oriente vers un renforcement des contraintes imposées aux seuls éleveurs et éleveuses de volailles plein air. Les pistes évoquées par le ministère, en contrepartie d'une possibilité floue de sortir les seuls gallinacés de chair 30 mètres autour des bâtiments dans certaines zones, incluent le conditionnement de l'accès à cette mise à l'abri, à un audit biosécurité qui est aujourd'hui totalement inadapté à l'élevage paysan. Encore une fois, l'élevage de plein air plébiscité par les citoyennes et citoyens est sacrifié sans justification scientifique par le ministère de l'Agriculture. Par facilité, l'État condamne les modèles d'élevage plein air qui devraient être la norme, plutôt que d'agir sur les véritables causes et les vrais responsables de cette crise. Plus que jamais, la Confédération paysanne et le MODEF, donc qui est un syndicat paysan, réaffirment leur soutien aux paysannes et paysans qui se retrouveront dans l'obligation de désobéir à ces règles pour faire perdurer leur métier et trouver les solutions adéquates permettant de lutter activement contre le virus à l'échelle de leur élevage. Voilà, donc ça méritait d'être évoqué. Et puis, alors, pour poursuivre hein, sur le sujet, avec un article de reporter du 15 décembre, qui est assez édifiant, hein, qui nous dit tout simplement qu'en Europe, 30% des pesticides vendus en France et en Europe n'ont pas été examinés récemment par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donc l'EFSA. Ils bénéficient tout simplement d'autorisations rallongées sans nouvelle analyse de leurs effets néfastes. Et même plus, 15% des pesticides sont autorisés après avoir bénéficié de rallonges de 5 ans ou plus. Tout cela est le résultat d'une étude de l'association Foodwatch qui a révélé de nombreuses failles dans le système d'autorisation des pesticides. L'autorisation qui avait été accordée à l'herbicide flufénacet a ainsi expiré il y a 10 ans, tandis que l'insecticide neurotoxique deltamethrine l'est toujours. Son autorisation a été prolongée à plusieurs reprises depuis 2013, malgré ses effets toxiques. Le système d'approbation des pesticides de l'Union européenne présente tellement de failles qu'une réforme s'impose de toute urgence, revendique Foodwatch. Pour améliorer ce système, l'association a plusieurs requêtes, dont celle-ci. Premièrement, que le coût d'obtention des certificats obligatoires pour les industriels soit plus élevé, afin qu'ils puissent être délivrés plus rapidement grâce à ce budget supplémentaire. Deuxièmement, que l'Europe se prononce sur une stratégie cohérente de sortie des pesticides, afin d'espérer atteindre l'objectif de 80% des terres européennes cultivées sans pesticides d'ici à 2030. Voilà donc deux revendications qu'il me semblait important de relayer, et y compris sur l'état actuel de l'application des réglementations. On est plutôt dans un système où, dans lequel on ferme les yeux et qui s'apparente plus à de la déréglementation qu'à de la réglementation. Et puis, pour poursuivre cette page d'actualité sur l'agriculture, peut-être il serait important de faire l'écho d'une victoire alors juridique, hein, donc avec, autour d'un communiqué du 22 décembre, donc pris sur le site de Génération Future, mais qui implique un collectif d'ONG, dont l'Union syndicale solidaire, l'UFC Que Choisir, Génération Future, Eau et Rivières de Bretagne, qui communique autour de la condamnation du gouvernement par le Conseil d'État sur le sujet justement de l'épandage des pesticides. Depuis des années, donc, les ONG qui ont fait ce recours alertent sur les carences de l'État en matière de protection des riverains et travailleurs soumis aux épandages de pesticides. Cette pression a abouti, lors des États généraux de l'alimentation en 2017, à l'adoption de l'article 83 qui introduit l'obligation de prendre des mesures de sécurité des riverains et l'adoption de chartes d'engagement. Les textes réglementaires promulgués en 2019 étant trop faibles et les chartes en découlant totalement inacceptable, l'ensemble des ONG, donc pétitionnaires, ont déposé des recours victorieux à la fois devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. À la suite des recours déposés par ces organisations, le Conseil d'État a rendu le 26 juillet 2021 une décision majeure dans la lutte contre les pesticides en annulant, car insuffisamment protectrices, plusieurs dispositions encadrant leur épandage près des habitations. Alors, dans les trois points mis en avant, il y avait donc l'insuffisance des distances minimales pour les produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il y avait aussi l'absence d'informations réelles des riverains en amont des épandages et également l'insuffisante protection des riverains et des travailleurs. Que propose le gouvernement pour répondre aux attentes du Conseil d'État dans les textes adoptés le 25 janvier 2022 sur la mesure essentielle visant à imposer une zone non traitée élargie pour les produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, donc produits appelés CMR2. CMR2, voilà, sans mauvais jeu de mots. Que propose le gouvernement ? Rien. Cette mesure n'ayant pas fait l'objet d'un nouvel arrêté, dans la prétendue attente d'un nouvel avis de l'ANSES qui serait soi-disant plus favorable aux utilisateurs, les organisations de défense de l'environnement et syndicales ont décidé de saisir le Conseil d'État le 9 février 2022 pour défaut d'exécution de l'arrêt donc, dont on vient de parler du 26 juillet 2021. La haute juridiction, dans sa décision du 22 décembre 2022, a suivi la position des organisations et enjoint l'État de prendre des mesures propres à permettre de fixer des distances de sécurité suffisantes pour les produits CMR2, dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique. Et ce, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, compte tenu, dit, cite le Conseil d'État, de la gravité des conséquences de ce défaut d'exécution en termes de santé publique et de l'urgence particulière qui en découle. Les associations se réjouissent de cette nouvelle victoire qui démontre une fois encore l'urgence de prendre des mesures de protection rapide et efficace à l'égard des riverains qui sont, rappelons-le, des populations vulnérables au sens du règlement 1107-2009. À l'image de ce que les associations dénoncent au sujet des chartes d'engagement trop peu protectrices, elles attendent du gouvernement qu'il réouvre vraiment ce dossier pour prendre les mesures qui s'imposent, et ce, urgemment et avant que les épandages ne redémarrent au printemps. Donc voilà donc un dossier à suivre. Mais en tout cas, l'information est aussi que la lutte pour faire appliquer le droit existant, en tout cas dans la hiérarchie des normes juridiques, sont aussi des luttes qui permettent de construire un rapport de force. Bien sûr, c'est une condition nécessaire, mais vraiment pas suffisante, hein, c'est bien clair. Et puis, pour clore ce tour d'horizon, Génération Future, avec une information glanée sur le site AgraPress, revient justement sur une évaluation des quantités, on va dire, hein, de ces surfaces agricoles soumises à des zones de non-traitement aux pesticides, et vous allez voir, tord le cou à en tout cas tout un argumentaire dommages économiques, hein, graves, puisque des chercheurs estiment que seulement 0,2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres de bâtiment. En effet, de nouveaux résultats relativisent l'enjeu économique des distances que les agriculteurs doivent désormais respecter par rapport aux habitations pour épandre des pesticides. Telles qu'elles sont définies actuellement par le gouvernement, les zones de non-traitement ne sont pas susceptibles d'avoir un grand effet sur la production agricole, note des chercheurs d'AgroParisTech dans une étude parue en décembre dans la revue Building and Environment. Ces distances minimales proviennent d'un alinéa de la loi Egalim de 2018 sur la protection des riverains. Sous la pression des associations, Génération Future en tête, les ministères ont traduit fin 2019 ce cadre en zone de non-traitement, donc les ZNT, à proximité des habitations. Les agriculteurs doivent désormais respecter des limites variables en fonction des filières ou des molécules. Au moins 20 mètres pour les produits cancérogènes et les perturbateurs endocriniens, 10 mètres pour les autres produits en arboriculture et 5 mètres pour les céréales. Aussitôt après l'apparition des textes, la FNSEA, donc syndicat agricole majoritaire, en tout cas dans les urnes, avait dénoncé une réglementation incohérente. Parmi les demandes du syndicat agricole majoritaire, une prise en charge économique du manque à gagner. Or, selon l'étude d'AgroParisTech, comme on l'a dit en introduction de l'article, seulement 0,2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres de bâtiment et serait donc concernée par les zones de non-traitement. Cette proportion, soulignent les auteurs, monterait cependant à 5% si la distance avait été fixée à 50 mètres, voire à 29% pour une distance de 150 mètres. L'enjeu des zones de non-traitement, donc des ZNT, serait plus important pour les cultures pérennes souvent situées à proximité d'habitations. Environ 3% des surfaces de vignes sont situées à moins de 10 mètres, représentant 1,5% du vignoble bordelais. Et si les distances augmentaient à 150 mètres, ce serait plus de la moitié des surfaces de vergers et un petit peu moins de la moitié de la surface de vignes qui seraient concernées. Autre constat plus positif, en convertissant les 2 millions d'hectares de culture se trouvant à moins de 100 mètres des habitations, la France pourrait atteindre ses objectifs en matière d'agriculture biologique. Voilà, on peut donc bien retourner aussi les arguments. Là, on parle finalement de zones d'épandage. Mais on a aussi bien de l'argent à consacrer bien sûr à bien au changement de modes agricoles hein, et c'est évidemment les solutions les plus durables et les plus soutenables en tout cas par rapport à la situation désastreuse de la dégradation de l'environnement en lien avec les pratiques agricoles, en tout cas majoritaires. Voilà, on vient va s'accorder une respiration musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
La mer est immense, je ne peux traverser. Je n'ai pas d'aile pour la survoler. Préparez-moi un bateau pour deux. Nous ramerons mon amour et moi. Navire, je vois qui fend les flots, charger à bord, et je ne sais si cet amour que j'ai en moi dans les abîmes m'entraînera. Contre un jeune chêne, je me suis appuyé, pensant qu'il pourrait résister. Mais hélas, il a plié comme un amour, il s'est brisé. Dans un buisson, j'ai posé ma main, croyant tendre fleur y trouver. Mes doigts aux épines j'ai blessé, la tendre fleur fait tomber. L'amour est joie, l'amour est beauté, ainsi les fleurs le matin. Mais l'amour passe et disparaît comme de la fleur.
Voilà, un petit peu de Graham Allwright, la mer est immense, bien un peu de Graham Allwright dans ce monde de brut, et vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Nous allons ouvrir très rapidement une page sur bien la question de l'eau, avec deux informations glanées le mois dernier. Toujours autour bien de l'association Eau et Rivières de Bretagne, qui fait état d'une bonne nouvelle, donc en date du 15 décembre. En tout cas, le rapporteur public du tribunal administratif donc, a donné raison à Eau et Rivières de Bretagne devant donc ce tribunal administratif de Rennes sur un dossier d'extension d'une porcherie SRL Le Duf de Plomodierne. L'audience qui a eu lieu donc le 15 décembre a permis d'entendre les conclusions du rapporteur qui viennent en effet soutenir les positions de l'association en proposant l'annulation de l'arrêté pour vice de procédure. Les avis du rapporteur public sont généralement suivis par les magistrats statuant au contentieux. Pour rappel, l'exploitant agricole avait obtenu auprès du préfet du Finistère l'autorisation sans évaluation environnementale de l'extension de son cheptel passant de 1844 animaux équivalent à 2755. Cette augmentation s'est accompagnée d'une sérieuse aggravation de la quantité d'effluents à épandre, imposant au milieu naturel une pression azotée trop importante et dont les conséquences n'ont pas été appréhendées. Or, tout au long de la procédure, Eau et Rivières de Bretagne n'a eu de cesse de rappeler au service de l'État que l'autorisation d'une telle installation, au regard de sa localisation, ne pouvait se faire sans passer par l'étape d'une évaluation environnementale. En effet, le territoire concerné par l'extension de l'exploitant fait l'objet de plusieurs statuts de protection environnementale. Plomodierne est une commune protégée par la loi Littoral. Elle jouxte le parc naturel marin d'Iroise et se situe également aux abords de plusieurs zones Natura 2000, dont la rade de Brest et le Ménez Homme. Enfin, bordant la baie de Douarnenez, elle demeure fortement concernée par la problématique des marées vertes résultante de la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Rappelons notre victoire dans la bataille juridictionnelle à l'encontre des insuffisances du 6e plan d'action régional contre la pollution des eaux par les nitrates. Le rapporteur public du tribunal administratif de Rennes a encouragé la formation de jugement à faire preuve de la plus grande cohérence. Ainsi, en donnant raison à l'association Eau et Rivières de Bretagne, ce dernier soutient que l'absence d'évaluation environnementale au regard de la sensibilité environnementale du milieu rend illégal cet arrêté et en requiert l'annulation. L'association se félicite de cette première réponse. Le jugement doit intervenir dans le cours de ce mois, du mois de janvier. Donc voilà, en tout cas, on souhaite que cette lutte juridique soit également victorieuse pour imposer aux plus hauts représentants de l'administration d'appliquer les principes de précaution et d'appliquer tout simplement la réglementation protectrice de l'environnement dans ces milieux protégés. Article aussi glané sur le blog de Marc Lémé, les eaux glacées du calcul égoïste autour du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement. En effet, le gouvernement s'était engagé après l'accident de Lubrizol à augmenter le nombre d'inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement. Non seulement il n'en a rien fait, nous dit Marc Lémé, mais leur nombre a encore diminué avec pour conséquence une nouvelle dégradation de la qualité des contrôles. Et de citer donc sur le blog la question écrite posée par un député de l'Union du Centre, Hervé Moret, et publiée dans le Journal officiel du Sénat, du 6 octobre 2022, à laquelle le ministère a répondu le 8 décembre. Cette question donc de M. Hervé Moret qui attire l'attention de M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement. La commission d'enquête chargée d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, que l'auteur de la question a présidé, a souligné le manque d'inspecteurs ICPE pour assurer le contrôle des 500 000 installations et notamment des 1300 sites Seveso et prévenir de futurs accidents. Le gouvernement s'était engagé à augmenter de 50 le nombre de ses inspecteurs dès 2021, chiffre qui paraissait déjà insuffisant pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé d'augmentation de 50% du nombre des contrôles d'ici à 2022. Cet engagement a été traduit par le vote des crédits nécessaires, non dès 2021 comme l'avait indiqué le gouvernement, mais sur deux années, censé permettre le recrutement de 30 nouveaux inspecteurs en 2021 et 20 en 2022. Malgré ces crédits, la presse révèle que non seulement ces recrutements n'ont pas été effectués, mais que le nombre d'inspecteurs a diminué. Ainsi, le nombre d'agents est passé de 1590 en 2019 à 1529 en 2021. L'objectif de 25 000 inspections en 2022 semble également inatteignable, avec seulement 14 959 réalisés depuis le début de l'année, donc jusqu'en octobre. En outre, l'objectif quantitatif d'inspection à réaliser, dans un contexte d'effectifs encore plus limité, semble conduire à la diminution de leur qualité. Alors que ces opérations pouvaient auparavant s'étaler sur plusieurs jours, sur un site Seveso, les inspecteurs ne restent désormais que quelques heures dans l'établissement lors d'un contrôle. Or, dans le même temps, les normes sont plus contraignantes et plus complexes depuis l'accident de Lubrizol. Ces éléments interrogent sur la capacité de ces contrôles à réellement prévenir de nouveaux accidents. Enfin, cette dégradation des conditions de travail tendrait à démotiver les agents chargés de cette mission, avec comme risque des départs aggravant le manque d'effectifs déjà observé. Aussi, donc, le député souhaiterait connaître les mesures que le ministre compte mettre en œuvre afin de remédier à cette situation très préoccupante et permettre réellement un niveau de contrôle quantitatif et qualitatif suffisant pour prévenir de nouveaux accidents. Alors, la réponse a été donnée, si vous voulez la lire, en tout cas, moi, je ne la lirai pas. La réponse du ministère de la Transition écologique de la cohésion des territoires a été donnée et publiée dans le JO du Sénat. Le journal officiel pardon, du Sénat du 8 décembre 2022, c'est page 6379 pour les auditeurs que ça intéresse. Alors je ne la lis pas parce que ça relève tout à la fois d'un mauvais morceau de pipeau, d'une violonnade géniarde et d'un solo de clarinette à pleurer. Hein. Voilà, c'est un peu comment on peut qualifier cette réponse. L'intérêt en tout cas de cette information et de cette interpellation, c'est bien de montrer que la prévention du risque, c'est encore une fois une culture dans laquelle tout le monde s'émeut lorsque l'accident arrive, et en premier lieu les autorités chargées de justement diligenter les contrôles, et que une fois l'agitation médiatique passée, de tout cela il ne reste plus grand chose. Et cet article illustre aussi, en tout cas cette question illustre aussi de mon point de vue, une véritable tendance de fond du libéralisme dans les politiques publiques, justement, dans les services publics, au désengagement, en présentant toutes les interventions publiques uniquement sous l'angle des coûts pour le budget, avec en arrière-plan la dette. Comme on le dit souvent sur cette antenne, derrière toute dette, il y a des créanciers, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que y a pas que des personnes endettées, il y a aussi des gens qui ont prêté de l'argent et qui se le font rembourser à des taux élevés. On va dénommer ça le capital, hein, au sens large. Et on voit bien que c'est cette préoccupation-là qui est la plus forte et qui dénature très largement toute la finalité même des services publics, hein, qui est la condition de la dignité des personnes. Que ce soit sur des contrôles d'installations classées en prévention des accidents et que ce soit plus généralement dans le domaine de la santé. Voilà, donc, en tout cas, les grands discours et les actions de com', nous continuerons à les démasquer comme cela vient d'être fait, en tout cas, avec la lecture de cet article. On va se mettre une petite transition rapide qui rappellera peut-être des souvenirs aux plus anciens d'entre nous qui ont connu le mouvement punk à ses débuts. Et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Fast Cars, les Buzzcocks sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre qui ouvre la page transport avec un article de Novetic daté du 29 décembre sur, qui fait le point sur les difficultés qui s'accumulent sur le réseau de transport francilien. Et tout cela freinant la décarbonation de la mobilité. Le terme est un peu barbare. On va dire tout simplement freine la sobriété, en tout cas énergétique, des déplacements. Alors que les transports en commun sont la clé de la décarbonation, le réseau francilien est au bord du chaos. Attente interminable, foule qui se presse aux portes, rames bondées, le service réduit pendant la pandémie de Covid-19 n'a pas repris à 100%. Pourtant, les besoins augmentent chaque année. La hausse des prix au 1er janvier 2023 ne fait qu'accentuer la colère des usagers. Les transports franciliens sont au bord de l'implosion, plus d'une heure d'attente dans certains bus, rames et couloirs bondés, enfin voilà. La galère a empiré depuis l'été selon Michel Babu qui est vice-président de l'association des usagers de transport d'Île-de-France. Par exemple, la ligne de métro 12 a totalisé plus de 44 heures de perturbations la semaine du 12 décembre selon le compte indépendant ATRATP Qualité devenu AT Métro Qualité. Pour couronner le tout, l'augmentation de 12% des tarifs depuis le 1er janvier 2023, justifiée par l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, renforce la colère des usagers. Face à cela, 50 maires ont signé la pétition Stop Galère demandant le gel des tarifs et le retour à 100% du service qui avait été réduit pendant les confinements. C'est une exigence sociale et climatique, clament-ils. Les transports en commun, essentiels à des millions de personnes à Paris et dans les banlieues, portent aussi la transition écologique. une alternative à l'usage de la voiture particulière dont les émissions de gaz à effet de serre sont considérables, estimées à 16% du total des émissions de la France en 2019 et près de la moitié du secteur des transports selon le ministère de la Transition écologique. Tout d'abord, la gestion à court terme par Île-de-France Mobilité est critiquée. L'offre est restée allégée sur certaines lignes, même après le Covid-19, afin de réaliser des économies. À présent, Valérie Pécresse, donc la présidente de la région Île-de-France, en charge des transports en commun, demande le retour à 100% du service. Mais la RATP n'est pas en mesure de rétablir le service, essentiellement par manque d'effectifs, affirme Michel Babu. Des conducteurs de métro devraient être recrutés d'ici fin décembre, mais pour le bus, les recrutements nécessaires ne seront pas terminés avant le printemps, poursuit-il. Les chauffeurs de bus ne se pressent pas aux portes à cause des conditions de travail difficiles et d'une rémunération insuffisante, une désaffection observée dans toute la France. Au chaos de cette reprise post-Covid s'ajoutent des problèmes de fond qui touchent autant les bus que les RER, les métros ou encore les tramways. D'une part, les grèves se multiplient, cette ambiance morose entre guillemets renforcée par la mise en concurrence des bus RATP en 2025 qui remet en cause les statuts des salariés pèse sur le quotidien selon Michel Babu. L'absentéisme est à un niveau jamais atteint, explique-t-il. D'autre part, le matériel a vieilli, perdant en fiabilité. Ainsi, le réseau, bien que vaste, n'est plus suffisant pour répondre à l'augmentation des besoins. Les déplacements ont augmenté de plus d'un tiers au sein de Paris entre 2001 et 2018, tout mode confondu, selon l'atelier parisien d'urbanisme. Les déplacements en voiture ont légèrement baissé, tandis que la marche, le vélo et l'usage des transports en commun ont augmenté en lien avec l'augmentation de l'offre et l'extension du territoire desservi, précise donc l'atelier parisien d'urbanisme. Île-de-France Mobilité a bien réalisé des investissements pour agrandir le réseau dans le cadre de la stratégie du Grand Paris et en prévision des Jeux Olympiques en 2024. Mais les coûts engagés, déjà faramineux, ne laissent plus de marge de manœuvre pour lancer de nouveaux investissements ou pour répondre aux attentes des salariés. La dette d'Île-de-France Mobilité avoisine ainsi les 6 milliards d'euros. Reste à trouver de nouveaux financements. Les coûts de fonctionnement, à hauteur de près de 10 milliards d'euros en 2018, sont financés en majorité par les employeurs via leur versement mobilité et remboursement des abonnements, à 27% par les voyageurs et 18% par les collectivités selon Île-de-France Mobilité. La ministre des Transports Clément Beaune a annoncé pour 2023 une conférence avec l'État, la région, les collectivités locales et les usagers pour organiser les transports et leur financement sur plusieurs années. Eh bien voilà, donc un article de Fanny Brunval du site Novétique, daté du 29 décembre, qui soulève des questions auxquelles nous sommes tous confrontés, en tout cas en Île-de-France, et dans laquelle on voit que nous sommes taillables et corvéables à merci pour les employeurs qui nous imposent des déplacements de plus en plus lointains. Je pense en particulier aux salariés du nettoyage, du secteur du nettoyage, qui sont sur plusieurs sites avec des temps de déplacement importants. Et au-delà de ce secteur, tous les salariés, des services qui sont du fait de l'absence de logements abordables relégués en grande banlieue ou en petite couronne, et dont les déplacements sont une galère au quotidien. Dans certains emplois tertiaires, s'est développé le télétravail, mais c'est une réponse à une mauvaise réponse finalement à de vraies questions, qui est celle des conditions de vie. Et force est de constater que dans notre région, malgré toute la publicité que l'on souhaite faire autour de Paris, du Grand Paris et de l'Île-de-France, l'ambiance est de plus en plus invivable, résultat d'une politique et de décisions sur le développement économique et la concentration. D'ailleurs, il est amusant de noter que le terme de cluster était aussi employé pour désigner eh bien, des zones à fort développement économique, hein, voilà, eh bien, le résultat, c'est que les cadencements des transports en commun n'arrivent plus à suivre, et surtout que les moyens humains, tous les salariés qui font fonctionner ces services, eh bien, sont de plus en plus en difficulté. On le voit donc un signe de dysfonctionnement général dans une conception libérale du fonctionnement des services qui trouve aujourd'hui montre aujourd'hui toutes ces aberrations. Pour poursuivre par un très court article, mais qui m'a paru intéressant, je ferai écho aussi d'un entrefilet sur Reporter, pris sur Reporter, qui rapporte que selon l'Académie de médecine, les trottinettes électriques sont un problème sanitaire majeur, puisque dans un récent rapport, cette académie de médecine montre que le nombre de blessés liés à ces engins a augmenté de près de 180% entre 2019 et 2022. Les traumatismes concernent principalement les avant-bras, les coudes, les poignets, mais aussi la tête. Traumatisme crânien, fracture de la mâchoire. Car 90% des utilisateurs de trottinettes en libre-service ne portent pas de casque. Dans les trois quarts des cas, il s'agit de chutes isolées, dues à de l'inattention ou à un déséquilibre associé à une vitesse excessive, à l'utilisation d'un téléphone portable ou à la consommation d'alcool. Les accidents en trottinette peuvent être aussi mortels. Fin août, un bilan partiel de la sécurité routière faisait état de 19 décès depuis le début de l'année 2022. L'Académie de médecine préconise des normes de fabrication plus strictes, comme la présence obligatoire de clignotants, des plateformes plus larges, elles mesurent en moyenne 14 cm, et il en faudrait 10 de plus pour qu'un adulte puisse poser ses pieds côte à côte, ainsi qu'une réflexion sur le partage de l'espace public dans les centres urbains. Depuis le 1er décembre, les mineurs n'ont plus le droit de se déplacer à Paris en trottinette électrique, et la mairie pourrait décider de ne pas renouveler la licence des trois opérateurs Lime, Dot et Tire, qui s'achèvera le 23 mars prochain. Alors voilà, l'Académie de médecine se positionne évidemment sur l'aspect accidentologie, qui est vraiment un sujet à prendre à bras le corps, c'est-à-dire que on constate, et c'est un animateur en tenue cycliste, en tant que cycliste urbain qui vous le dit, on constate finalement une forme de banalisation du déplacement où, effectivement, lorsqu'on est sur un engin motorisé, là il s'agit d'une trottinette, hein, ça peut être le cas pour une voiture, il y a une forme de perte de conscience finalement du danger lié à la vitesse du déplacement, lié au risque de comportement d'autres usagers. Et effectivement, si on veut élargir un peu le propos, il y a aussi le risque de conflit d'usage, étant entendu que l'objectif, en tout cas, est celui de la priorité à l'usager vulnérable, hein, c'est-à-dire que sans avoir forcément besoin d'un code de la route et d'une codification, une éducation et un accord pourraient se faire en disant que la priorité, lors de toute circulation, doit être donnée à l'usager le plus vulnérable. En tout cas, cela changerait, ça serait de nature, évidemment, à limiter les risques. Et puis aussi, je l'ai dit dans cette émission, mais on ne peut que constater une forme de banalisation de la dépense d'énergie et de la consommation de métaux rares, en tout cas pour ceux qui font des batteries, et s'interroger très fortement sur à la fois les troubles liés à la sédentarité dans notre société, hein, le fait d'être de moins en moins actif, et de banaliser finalement l'usage, en particulier je vise là des personnes dans la force de l'âge, hein, c'est-à-dire avec une capacité d'avoir une dépense physique, de se déplacer, d'avoir finalement cette prothèse, en tout cas énergétique, ou cette prothèse technologique plus exactement. Un déplacement à trottinette, c'est devenu banal. Quelle est la durée de vie de cette trottinette, de cette batterie? Très probablement pas plus d'un an. Quelles sont les conditions de production de ces métaux? En tout cas, elles sont extraites dans des mines qui ne sont pas sur globalement pas sur le territoire français. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un peu de l'hypocrisie hein, de dire notre niveau de consommation il est sans limite. En tout cas, c'est un droit. La mobilité, c'est un droit. Je me déplace avec une assistance électrique, indépendamment de ma condition physique, d'une pathologie que je pourrais avoir, hein. C'est ça que la société libérale promeut et développe. Et bien voilà, tout ça, ça ne fait pas des citoyens, si je peux dire, avec une conscience, puisque finalement on reporte tout, bien les effets secondaires, et bien soit dans d'autres pays pour ce qui est de la production des batteries, et aussi par rapport à la question du recyclage et à l'utilisation économe des ressources, on le reporte vers d'autres générations futures, voilà. Et tout ça parce que il y a toute une image, il y a toute une communication qui nous fait considérer comme cool le fait, et normal, le fait de se déplacer sur des engins avec assistance électrique. C'est exactement le cas aussi du vélo électrique, hein, on peut en dire autant. Qui a été dont les pouvoirs publics ont imaginé, en tout cas ont fortement subventionné et n'ont pas imaginé que un certain nombre de personnes pouvaient se déplacer sans justement cette assistance et en développant un effort physique somme toute pas si important que ça, et donc a largement subventionné le déploiement de ces vélos. Et dont on fera le bilan écologique un jour, mais en tout cas c'est clairement une gabegie hein, par rapport à l'usage de ces ressources. Voilà, il faut quand même un peu réfléchir de temps en temps. On a des jambes, c'est pour marcher. Il est paradoxal de voir toutes ces maladies pour lesquelles nous sommes traités, qui sont liées finalement à bien de la sédentarité. Voilà, un petit peu comme pour vous donner une image, un petit peu comme prendre sa voiture pour aller dans une salle de sport, quoi. Hein. Voilà, ce paradoxe-là où on ne réfléchit plus à ce qu'on fait et nos besoins sont conditionnés aussi par les infrastructures mises en place. Et il est vrai qu'il est compliqué d'y résister, mais en tout cas, nous devons développer cette conscience si nous prétendons avoir un discours sensible à l'écologie. Voilà, et puis pour en dire un peu plus sur cette page transport, je regrette fortement d'avoir oublié le numéro de décembre de l'âge de fer, donc l'âge de fer FAIRE, hein, c'est un mensuel, donc que je vous conseille très fortement, qui a justement réfléchi, et j'avais prévu de faire écho à un certain nombre d'articles, notamment sur l'autopartage et cette réflexion où la gratuité de l'autostop contre finalement des systèmes de réservation avec derrière des entreprises tirant profit de ce mode de déplacement et qui montrent aussi, il faudra lire ces articles, mais qui sont vraiment très intéressants, qui montrent aussi que finalement, les personnes qui s'investissent dans l'autopartage le font aussi sous une contrainte économique, hein, bien sûr, les gens très riches n'ont pas besoin de financer leur déplacement en accueillant un nouveau passager, et également montre que avec l'autopartage on peut très bien ne pas contrecarrer un usage disproportionné de la bagnole. Voilà, je vous engage à le lire. Et puis j'en profite pour vous dire que dans cette même revue du mois de décembre, donc je parle d'un titre de la presse sans publicité, hein, voilà, et comme Radio Libertaire est aussi sans publicité, eh bien on se fait logiquement l'écho de ces initiatives. Il y a aussi une réflexion parfaitement intéressante et assez rare finalement dans l'ensemble de la presse sur la question des diagnostics de performance énergétique, donc du logement. avec en page centrale de mémoire différents graphiques montrant notamment le fait qu'on ne réfléchit pas assez aussi sur ces rénovations thermiques, sur la question de la superficie par personne, hein, et l'article illustre bien le fait que 4 personnes dans un logement mal isolé, au final, si on rapporte cette consommation énergétique pour le chauffage par personne, eh bien, consomme moins que 2 personnes dans le même logement rénové. Voilà. Et donc propose, vous le verrez si vous commandez ce numéro que je vous recommande, et donc propose une réflexion intégrant ce facteur, hein, pour bien limiter aussi le subventionnement. On a évoqué dans cette émission le manque de ciblage de MaPrimeRénov, hein, c'est-à-dire bien une subvention finalement à des monogestes, mais qui ne résorbe pas les problèmes de passoires énergétiques. Et donc voilà, donc la réflexion, ça serait de dire bah, c'est pareil, c'est comme par exemple si on a un frigo américain, il peut être de classe A+, mais si on est seul à l'utiliser, c'est complètement disproportionné par rapport à nos besoins. Donc là c'est pareil pour la question de l'habitation, il faudrait introduire une notion de nombre de personnes par mètre carré aussi, pour bien mieux cibler ces rénovations et en tout cas avoir un véritable impact sur notre consommation d'énergie. Voilà, en tout cas, je ne peux que vous conseiller cette revue si vous avez possibilité de la soutenir, comme d'autres revues qui doivent être soutenues. Mais on peut pas toutes les citer. En tout cas, voilà, c'est l'âge de fer. C'est le numéro de décembre. J'aurais pu vous en parler plus précisément à l'appui d'un article. Mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, ayant oublié le document chez moi. Voilà. On va s'accorder une pause musicale bien méritée. Et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Market Square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. Many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm. Of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long. Smile.
smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on my 5 years. What a surprise. We got 5 years. My brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We've got 5 years.
Voilà, 5 ans, ce qu'il nous reste selon David Bowie, 5 years. Et nous reprenons le cours de l'émission Les Mangeux de Terre en ouvrant la page Énergie avec une information issue de Reporter du 7 décembre qui revient sur les renouvelables et leur développement. Et qui nous dit que les énergies renouvelables s'envolent à travers le monde. Selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, paru le 6 décembre, la capacité de production d'énergie renouvelable devrait devenir la première source de production d'électricité d'ici 2025 devant les centrales à charbon. Cette croissance devrait être tirée par la Chine, qui doit installer près de la moitié des nouvelles capacités attendues au cours des 5 prochaines années, par également les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne. Les 27 ont en effet prévu dans leur plan Repower EU de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale à 45% en 2030 dans l'optique de s'affranchir des produits énergétiques russes. Résultat en tout cas global, la part des renouvelables dans le mix électrique mondial devrait augmenter de 10 points de pourcentage d'ici 2027 pour atteindre 38%. Au cours des 5 prochaines années, selon le scénario central de l'Agence internationale de l'énergie, la capacité installée du solaire et de l'éolien devrait croître d'environ 2400 gigawatts. Attention toutefois, les renouvelables semblent pour le moment s'additionner aux sources d'énergie fossiles plutôt que de les remplacer. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que la capacité installée du charbon stagne autour de 2200 gigawatts au cours de la prochaine décennie. Le gaz naturel devrait quant à lui continuer d'augmenter au cours des 5 prochaines années jusqu'à atteindre une capacité installée équivalente à 2000 gigawatts en 2027. Les énergies les plus polluantes ont encore de beaux jours devant elles, conclut l'article. Et effectivement, on sait, en tout cas sur ces questions, que eh bien, l'axe de la sobriété, c'est l'axe majeur de toute orientation, on va dire, écologique, en tout cas de la production, et que, bien sûr, l'effet rebond, hein, c'est pas parce qu'on a de nouvelles sources d'énergie que, au final, la consommation globale diminue. Et puis pour faire écho à une question que j'ai abordée précédemment avec en vous conseillant la revue L'Âge de Fer, avec Bastamag cette fois-ci, qui est aussi une revue sans publicité qui a besoin de soutien. Eh bien, un article du 15 décembre dernier nous dit revient sur le million de logements rénovés selon Emmanuel Macron et nous dit que derrière ce chiffre, la réalité est bien moins reluisante. Il revient donc sur le lancement du dispositif de MaPrimeRénov' dont on parlait. Depuis ce lancement, le gouvernement se vante d'avoir massifié la rénovation énergétique, mais en finançant des améliorations partielles, sans vérifier leur efficacité, la France reste bien loin de ses objectifs. Pouvez-vous citer une action réelle, forte, déterminante, qui ne soit pas juste de la com que vous menez pour l'écologie ? À cette question posée par un internaute, Emmanuel Macron répond fièrement dans une vidéo postée sur YouTube « On a rénové plus d'un million de logements d'un point de vue thermique grâce à MaPrimeRénov'. » Le chiffre n'est pas faux, mais cette affirmation présidentielle résonne pourtant comme de la com. La suite des propos tenus par le président de la République est autrement plus intéressante. « Il y a des rénovations complètes et intégrales, elles sont beaucoup moins nombreuses. » Le diable se cache dans les détails. Parce que le million de rénovations annoncées se réduit comme peau de chagrin quand on s'intéresse aux rénovations dites complètes et performantes. MaPrimeRénov' soutient essentiellement des rénovations monogestes, souligne un rapport de France Stratégie. Ces monogestes consistent juste à, par exemple, changer de chaudière, ce qui demeure peu opérant si le logement est mal isolé. Or, de janvier 2020 à juin 2021, 86% des demandes de primes accordées sont constituées de monogestes. Seulement 12% correspondent à deux types de travaux simultanés et 3% à trois types de travaux simultanés ou plus, pointe France Stratégie. Ces gestes uniques ne sont que très peu efficaces. Une enquête sur la rénovation des maisons individuelles menée par l'Observatoire national de la rénovation énergétique l'illustre. Les travaux touchant à 5 gestes ou plus, la toiture, les combles, les fenêtres, le chauffage, la ventilation, etc. Donc ces travaux-là sont 6 fois plus efficaces que les monogestes. Mais ce n'est pas le seul défaut de cette politique du chiffre. Les gens ne font pas les travaux de rénovation au compte-gouttes. Une fois qu'ils en ont fait, ils n'en font plus pendant plusieurs années. Donc les petites rénovations de MaPrimeRénov' bloquent la mise en place de travaux plus structurels par la suite. Et ça, c'est embêtant, souligne Michel Colombier, membre du Haut Conseil pour le Climat. Une réalité d'autant plus gênante que la France reste loin de ses objectifs sur la rénovation des logements. Une note de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, donc l'IDRI, datée du printemps 2022, souligne ainsi qu'en dépit du fait que le secteur des bâtiments est celui pour lequel la stratégie nationale bas carbone prévoit la réduction des émissions la plus rapide à moyen terme, les politiques peinent à atteindre leurs objectifs. Et de conclure, l'ambition consensuelle d'accroître le nombre de rénovations énergétiques ne se traduit pas en résultats probants. Au 1er janvier 2022, 5,2 millions de résidences principales, soit un sixième du parc, étaient encore des passoires thermiques. À peine quelques milliers, 2500 selon la Cour des comptes, sortent annuellement de ce statut grâce à MaPrimeRénov'. Autant dire une goutte d'eau. Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs le disent, la France doit changer d'échelle en axant les politiques publiques vers des rénovations performantes. Il faut ainsi passer d'environ 70 000 rénovations globales effectuées par an, c'est-à-dire la moyenne sur la période 2012-2018, donc passer de 70 000 à 370 000 par an après 2022 et même 700 000 par an à partir de 2030, selon France Stratégie. Mais plusieurs obstacles persistent. Celui de la capacité de la filière à prendre en charge cette massification des rénovations performantes. Une problématique qui va de pair avec les investissements publics comme privés, jugés trop faibles. On estime que les investissements en matière de rénovation énergétique s'élèvent à 15 milliards d'euros, principalement sur des rénovations partielles. Or, jusqu'à 34 milliards d'euros d'investissements additionnels seraient nécessaires chaque année, pointe l'IDRI. Un amendement de la députée Europe Écologie Les Verts, NUP, Eva Sas, prévoyant 12 milliards additionnels pour la rénovation énergétique des logements, a bien été adopté à l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement. Mais l'article 49.3 aura eu raison de ce vote. Une autre question demeure essentielle pour changer d'échelle. Comment accompagner les ménages les plus modestes dans ces rénovations coûteuses ? Selon France Stratégie, les ménages très modestes ont un reste à charge de 38,6% du coût total des travaux en moyenne, une fois que toutes les aides ont été cumulées. Une part importante qui empêche la plupart d'entre eux d'envisager de rénover globalement leur logement. Pour régler ces problèmes, Michel Colombier suggère de conditionner les aides publiques aux gains de performance finale. On se rend compte que les gens ont un comportement très adverse au risque quand il s'agit de financer leur rénovation. Il faudrait pouvoir leur garantir les économies qu'ils réaliseraient, assure le représentant du Haut Conseil du Climat. Allant dans ce sens, un mécanisme de financement des travaux s'appuyant sur les économies d'énergie réalisées sans avancer les frais a été imaginé par France Stratégie. L'agence de la transition écologique comme le gouvernement sont sensibles à cette idée, souligne Vincent Ossillot, économiste à France Stratégie. Une expérimentation devrait être lancée l'année prochaine avant d'être généralisée si elle est concluante, car sans accompagnement des ménages les plus modestes en situation de précarité énergétique, le changement d'échelle restera impossible. Voilà, un article donc de Pierre Jequier-Zalc, issu de la revue Bastamag, qui revenait sur cette question qui peine à être prise en compte. Évidemment, on préfère faire des coups d'éclat en disant que des centaines de milliers de personnes ont recouru à une prime mise en place, mais les résultats derrière ne suivent pas, et en plus ces primes sont très largement indifférenciées en fonction des ressources des ménages, et en tout cas pas du tout ne permettent pas aux ménages les plus pauvres de rénover sérieusement leur logement. Puisqu'on est sur la page énergie, attardons-nous un peu sur l'actualité du nucléaire avec reporter et un article du 15 décembre sur le profil controversé du nouveau président de l'ADEME, donc l'Agence de maîtrise de l'énergie. Cet article nous rappelle que s'il n'a pas conquis la majorité des parlementaires, c'est pourtant bien Boris Ravignon, maire Les Républicains de Charleville-Mézières, qui prendra la tête de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. L'élu aura un agenda chargé. En plus de son mandat de maire, il est également président d'Ardennes Métropole, vice-président de la région Grand Est et désormais président-directeur général de l'ADEME. S'il ne souhaite renoncer à aucun de ses postes, il a assuré devant les parlementaires qu'il sera président à temps plein de l'ADEME, a rapporté Contexte. Ses administrés apprécieront. Début décembre, Emmanuel Macron a proposé de nommer Boris Ravignon à la tête de l'agence, une décision que les parlementaires devaient confirmer par un vote. Or, Boris Ravignon a reçu 33 suffrages négatifs contre 29 positifs. Un échec qui n'a pas été suffisant pour s'opposer à sa nomination. En effet, il aurait fallu au moins 3/5 des suffrages exprimés, donc 38 votes contre, pour que les parlementaires puissent s'opposer au choix présidentiel, a rappelé Le Figaro. Pour la majorité macronienne, l'arrivée de ce pro-nucléaire à la tête de l'agence est une aubaine, à l'heure du développement d'une stratégie énergétique centrée autour de l'atome. L'élu fait partie des signataires d'une lettre des élus ardennais envoyée au président de la République, lui signalant qu'ils étaient volontaires pour que le territoire ardennais accueille un ou plusieurs réacteurs de nouvelle génération, rappelle Novetic. Il succède à Patrick Lavarde, président par intérim depuis le 1er septembre, suite à la démission d'Arnaud Leroy pour raisons personnelles, entre guillemets, quelques semaines après le discours de Belfort d'Emmanuel Macron, au cours duquel le président avait annoncé ses ambitions de renouvellement du parc nucléaire français. Voilà, cette information a été passée relativement inaperçue, en tout cas nous l'avons ressortie. Et puis toujours avec reporter du côté de Flamanville et de l'EPR, une info du 19 décembre 2022 qui pointe un nouveau revers pour l'EPR de Flamanville, puisque EDF a annoncé le 16 décembre au soir un nouveau report de la mise en service de ce réacteur nucléaire nouvelle génération. Le chargement en combustible nucléaire du réacteur est désormais planifié au premier trimestre 2024, prévient le communiqué. EDF impute cet énième retard à un problème de soudure, inapte à supporter les températures extrêmes du processus nucléaire. Les procédures de traitement de 150 soudures situées à proximité de matériel sensible pour le bon fonctionnement de la centrale devront être révisées. L'EPR de Flamanville était initialement prévu pour 2012 pour un coût de 3,4 milliards d'euros. Il devrait finalement aboutir au mieux avec 12 ans de retard et près de 10 milliards d'euros de surcoût. L'EPR est un engin beaucoup trop compliqué et quasi inconstructible, avait déclaré Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, lors d'une audition à l'Assemblée le 13 décembre. Et puis, toujours sur le registre du nucléaire, il me semble important de bien faire le point avec l'Observatoire du nucléaire dans un communiqué du 13 décembre sur la fusion nucléaire et autour, vous l'avez peut-être vu dans la presse, de soi-disant avancées décisives. Et l'Observatoire nucléaire nous remet ça en perspective et nous rappelle que c'est une énième avancée décisive pour abuser les gogos et décrocher de nouveaux budgets. La concurrence fait en effet rage entre les équipes qui travaillent dans divers pays sur la question de la fusion nucléaire. Cependant, donc là on parle du projet ITER, hein, notamment international ITER, ITER. Cependant, cette rivalité n'a pas lieu sur le terrain scientifique, en jachère, mais sur le seul plan de la communication. Il s'agit en effet d'annoncer une avancée décisive au meilleur moment permettant de se faire attribuer d'importants budgets et pouvoir continuer des recherches qui sont assurément passionnantes pour les physiciens, mais en réalité parfaitement vaines. Le 12 novembre 1991, le quotidien Le Monde titrait « Les Européens franchissent un pas décisif dans la fusion thermonucléaire ». Avant de rendre compte le 12 décembre 1993 de la contre-attaque des États-Unis, toujours sur le terrain de la communication, les Américains effectuent une percée dans la fusion thermonucléaire. 30 ans plus tard, les mêmes effets d'annonce sont de mise et le même journal annonce le 13 décembre 2022 « Fusion nucléaire, une percée scientifique majeure annoncée par un laboratoire américain ». En 2021 déjà, des escarmouches avaient opposé plusieurs équipes. Le 17 août 2021, les chercheurs du NIF, National Ignition Facility, un laser de recherche du laboratoire national Lawrence Livermore aux États-Unis, ont annoncé une avancée historique vers la fusion nucléaire par confinement inertiel. Vexés, les physiciens du célèbre MIT, Massachusetts Institute of Technology, ont contre-attaqué le 8 septembre 2021, à peine 3 semaines plus tard, donc, en assurant avoir réussi une avancée majeure dans la fusion nucléaire. Se voyant ridiculisés, les chercheurs du projet international ITER, projet en totale déconfiture à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, ont répliqué 5 jours plus tard, le 13 septembre 2021, en communiquant sur leur aimant principal qui, selon eux, serait capable de soulever un porte-avions. Une remarquable performance en termes de communication qui va être reprise par la majorité des médias dans le monde. Mais la communication ne fait pas tout, et le projet ITER continue à s'enfoncer dans les pires déconvenues. Une partie de l'installation construite à grand-peine doit aujourd'hui être démontée pour tenter de réparer de lourdes malfaçons entraînant des années de retard supplémentaires. L'annonce de l'échec total du projet est donc repoussée à plus tard et de nouveaux milliards de dépassements budgétaires. Pour revenir à l'annonce tonitruante de ce 13 décembre 2022, venue une fois de plus du NIF, donc National Ignition Facility, le laser de recherche du laboratoire national Lawrence Livermore des États-Unis, il faut noter qu'elle concerne une quantité infinitésimale d'énergie royalement générée pendant quelques milliardièmes de seconde. Le réchauffement climatique, qui doit, paraît-il, être combattu par la production propre de la fusion nucléaire, a assurément un très bel et chaud avenir devant lui. Il faut aussi avoir en tête que l'administration Biden vient de voter de très importants budgets en faveur de la recherche. Ce n'est donc pas par hasard que les communicants du NIF de Livermore ont frappé fort. Nul doute qu'ils se verront sous peu attribuer d'importants budgets pour leurs passionnantes expériences aux grandes dames de leurs concurrents américains de MIT et pendant que se désolent les malheureux scientifiques d'ITER. Mais les uns et les autres préparent assurément déjà de prochains effets d'annonce propres à abuser un certain nombre de gogos dans les médias et surtout chez les dirigeants politiques, seuls à pouvoir débloquer de nouveaux milliards qui seront anéantis sans pitié à défaut de faire fusionner les atomes d'hydrogène. Voilà pour cette page sur le nucléaire. On se fait une très très courte pause et dernière pause musicale et on conclut par quelques éléments sur le climat. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
mon tête ratatou, c'est pour cent sous mon toutou, vise la réclame. Mon savon, ça fait des ronds, ça blanchit même le charbon, vise la réclame. Arrête-toi passant, accroche bien tes voyants, c'est une affaire. Les murs s'ajactent bien et sont remplis pour le bien publicitaire. Si tu n'as pas un rond à cap passer, passeront d'autres volailles. Ils passeront par-ci et puis par-là, monsieur, dame, merci, faut qu'on travaille. Ben de v'là, v'là les murs qui bavardent, vise la réclame, vise la réclame, qui lui, comme la vérité. Ma pin-up, faut pas te gêner, son corps est polycopié, vise la réclame. Elle a des barres maillées par les yeux à tricoter, vise la réclame. Arrête-toi client, accroche bien tes voyants à son corsage. Les murs ça fait bouger, mais comme l'amour m'est figé, type de ramage. Si tu n'as pas un rond, tu peux rêver, y'a pas de raison qu'on t'en tienne compte. Mais si tu veux l'avoir dans un cinoche en blanc et noir, faut faire tes comptes. Ben de v'là, sur les murs, v'là la compte. Vise la réclame, vise la réclame. Dis-lui ses quatre vérités. Les oiseaux, c'est rigolo, ça vise les murs par en haut, sur la réclame. Ils ont des pattes et pourtant ils traînent jamais comme les gens sous la réclame. Arrête-toi passant, accroche bien tes croyants à leur musique. Les murs ça peut briller mais faut le client pour donner dans la mimique. Et tu n'es pas un rond, bien que t'en aies les murs au fond c'est pas bégueule. Tout rempli de leurs zinzins, t'as qu'à passer sans y faire gaffe en levant la gueule. Et voilà, tous les murs qui s'engueulent et qui te réclament, et qui te réclament, tout nu comme la vérité.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. C'était Vise la réclame par Léo Ferré. Et pour terminer l'émission Les Mangeux de Terre, je voulais faire un aperçu, en tout cas, bien de l'affaire du siècle et des associations donc, qui vont demander une astreinte financière face à l'insuffisance des mesures prises par l'État. En effet, donc samedi 31 décembre était non seulement le dernier jour de l'année, mais aussi la fin du délai accordé par le tribunal administratif de Paris à l'État français dans l'affaire du siècle pour réparer le préjudice écologique qu'il a causé. Sans attendre, les associations à l'origine de cette action en justice annoncent qu'elles vont demander une astreinte financière au début de cette année, donc 2023, en raison de l'insuffisance des mesures prises depuis le jugement prononcé en octobre 2021. Le tribunal administratif avait condamné l'État pour inaction climatique, l'enjoignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour combler les excédents de gaz à effet de serre émis sur la période 2015-2018 et ce avant le 31 décembre 2022. Or, sur la base des nombreuses études et rapports publiés cette année, les organisations estiment que les mesures prises jusqu'à présent par l'exécutif ne sont pas assez ambitieuses et que la baisse effective des émissions de gaz à effet de serre de la France depuis le jugement est par ailleurs principalement conjoncturelle, due à la crise du Covid et à la crise énergétique. Les mesures structurelles mises en place sont largement insuffisantes, écrivent-elles. Alors là, je fais un petit encart, hein. On a parlé de... En tout cas, pour ces questions énergétiques, et nos amiches du gouvernement se mettent à parler de sobriété. Ce sont bien évidemment des convertis de la dernière heure pour trouver une solution face aux problèmes liés à la crise ukrainienne et russe, notamment. Je ferme la parenthèse. En septembre 2021... les associations suggéraient au tribunal de prononcer une astreinte de 78 millions d'euros par semestre de retard. Concrètement, pour répondre aux injonctions du tribunal, l'État devait doubler en 2022 son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu. Or, ce n'est pas du tout la trajectoire qui se dessine selon les dernières estimations du CITEPA. Donc le CITEPA, c'est l'organisme chargé de réaliser l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, qui a fait une publication le 21 décembre. Sur les 9 premiers mois de l'année, les émissions ont stagné avec une baisse de seulement 0,3% contre un objectif de moins 4,7%. Les émissions dans le secteur de la production d'énergie ont notamment augmenté de 12% entre janvier et septembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Cela s'explique notamment par l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires qui a entraîné le recours aux centrales thermiques, indique le CITEPA. La centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle a dû rouvrir et les unités de Cordemey continuent elles aussi à tourner. GRDF indique de son côté que 2022 est une année record pour la production d'électricité à partir de gaz. À long terme, la France n'est pas non plus dans les clous. Sur les 11 paramètres structurants des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, seulement 3 sont sur la bonne trajectoire, qu'il s'agisse par exemple du nombre d'usagers des transports ferroviaires, de la part du nombre de véhicules à faible émission dans le parc automobile français, du nombre de logements rénovés ou encore de la taille du cheptel bovin. La France ne tient pas ses objectifs, notent les ONG dans un rapport publié en juin dernier. Le Conseil d'État lui-même, après avoir condamné l'État en 2021 sur sa politique climatique dans le cadre de l'affaire Grande-Synthe, s'est aussi saisi en octobre, considérant que l'État n'avait pas fait la preuve de l'efficacité des mesures prises pour respecter la trajectoire de réduction des émissions à l'horizon 2030. Dans cette autre affaire, les associations de l'affaire du siècle en tant que requérantes déposeront également début de cette année un nouveau mémoire démontrant en quoi les mesures prises à ce jour par l'État sont loin d'être suffisantes. Dans une vidéo YouTube diffusée le 13 novembre, dans laquelle le président promettait de répondre à toutes les questions sur l'écologie, Emmanuel Macron avait surpris en répondant que ces deux condamnations pour l'inaction climatique, affaire du siècle et Grande-Synthe, n'étaient pas pour sa pomme, mais pour la période d'avant. Comment faire confiance à l'État pour garantir un avenir vivable pour toutes et tous quand son principal représentant diffuse des informations fausses et semble se satisfaire de l'ampleur largement insuffisante des mesures prises, rétorquent les organisations de l'affaire du siècle. Et puis pour conclure, avec le réseau Action Climat France, revenons sur le projet de loi de finances 2023 qui s'achève au Sénat. Et alors que la question des dépenses néfastes à la biodiversité est au cœur des discussions de la COP15 qui a eu lieu, le réseau Action Climat publie le panorama des dépenses publiques néfastes au climat et à l'environnement prévues dans le budget de l'État pour 2023 et a identifié au moins 67 milliards d'euros d'argent public qui subventionnent les activités contribuant au dérèglement climatique. L'année dernière, ce chiffre était de l'ordre de 25 milliards avant la guerre en Ukraine. Ces dépenses sont directement le fruit de la dépendance française aux énergies fossiles et à la transition écologique trop lente de notre pays. Dépenses fiscales sur les taxes sur les énergies fossiles, niche fiscale sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICPE, exonération et taux réduit de TVA pour les produits énergétiques. Cela concerne aussi les mesures pour faire face à la crise de l'énergie qui sont pourtant nécessaires socialement. C'est pourquoi sur ce cas particulier, le réseau Action Climat préconise des mesures ciblées et transitoires en priorité vers les ménages fragilisés. Ces mesures doivent être accompagnées de solutions structurelles pour sortir les ménages de la précarité, dont un plan de rénovation performante des logements, avec un zéro reste à charge pour les plus modestes. À travers ce rapport, le réseau Action Climat alerte sur l'urgence à agir pour sortir de ces dépenses néfastes pour le climat et la biodiversité, et établit un certain nombre de préconisations. Donc on va s'arrêter là. L'émission Les Mangeux de Terre, c'est terminé. C'était la première émission de l'année. On se retrouve le premier lundi du mois de février à 18h. Comme classiquement, d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et surtout n'oubliez pas de soutenir la radio financièrement notamment, car la radio ne vit que du soutien de ses auditeurs et de ses auditrices. Voilà, on se retrouve le mois prochain et restez donc à l'écoute de la plus rebelle des radios.
marche à la fois dans l'ordre incertain d'un silence bourgeois. Voyageuse solitaire, entourée de mystères, les pages que tu lis nous cachent ton regard, te cache-t-elle aussi qu'une guerre se prépare. Voyageuse solitaire, entourée de mystères, est-ce que tu fuis dans ce train? Quelqu'un qui chercherait à briser ton silence. Est-ce que tu fuis dans ce train? Quelque enfant qui volerait ton indépendance, ton compartiment faites sans passion ton comportement de femme de salon. Voyageuse solitaire, entourée de mystères, le soleil couche en joue avec l'horizon, et tes sentiments se cherchent une raison. Voyageuse solitaire, entourée de mystères, est-ce que tu fuis dans ce train? Quelque amant qui chercherait à briser ton silence. Est-ce que tu fuis dans ce train? Des serments prononcés lors d'une dernière danse. Est-ce que tu fuis dans ce train, quelque amant qui chercherait à briser ton silence, est-ce que tu fuis dans ce train?
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.